et qui du coup se retrouvent seules après, soit par leur conjoint ou que leurs enfants ont subi ou les violences quelles qu'elles soient malheureusement. Et ça c'est important, mais peut-être qu'on... Alors ça ce sont des situations qui peuvent se retrouver visibilisées et c'est nécessaire, c'est important, c'est vraiment essentiel, mais peut-être qu'on oublie aussi toutes les autres situations. Ce sont ces autres situations-là en fait qui sont pas visibilisées. Je pense que la plus grande difficulté dans le féminisme actuellement, c'est de pouvoir représenter toutes les situations en fait. Parce que durant les dernières années, il y a beaucoup de femmes notamment qui ont pris la parole et notamment sur les réseaux sociaux et c'est vraiment capital. Mais je pense que peut-être qu'à un moment donné, il y a eu aussi tellement de situations qui ont été un peu, on va dire, révélées aux yeux de tous et toutes, que c'est peut-être un peu compliqué que finalement chacun et chacune soit représenté aussi. Et que ça se retrouve un peu noyé, on va dire, parmi des tas d'autres situations, quoi, en réalité.
Oui, donc du coup, c'est encore plus difficile pour vous et pour les autres mères isolées précaires de faire entendre votre voix, quoi.
Bah, c'est plus compliqué et puis c'est même violent à vivre en réalité parce qu'on a l'impression d'intéresser personne d'une part. On sait que sociétalement et politiquement notre situation elle n'intéresse quand même pas grand monde, alors qu'aujourd'hui on est dans des vrais besoins et des vraies problématiques quotidiennes qui rendent nos quotidiens avec nos enfants extrêmement difficiles. Effectivement, la précarité ça en est une et elle est dramatique. Mais au-delà de ça, on a des besoins quotidiens, et notamment pour concilier cet équilibre entre la vie de famille monoparentale et une vie professionnelle, par exemple, qui est évidemment nécessaire pour juste même survivre en fait, quotidiennement. Tout ça, en fait, c'est pas encore pris en compte et surtout pas réellement pris au sérieux par la plupart des acteurs et des actrices de la vie quotidienne que l'on peut croiser, quoi.
Pourquoi c'est pas pris suffisamment en compte ?
Le problème, c'est qu'il y a une multiplication, en fait, par exemple, des personnes auxquelles on peut être confronté, en fait. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. L'idée d'un guichet unique qui a été réclamé à plusieurs reprises pour les familles monoparentales est une vraie bonne idée. Parce qu'en fait, à un moment donné, déjà devoir aller voir quelqu'un ou quelqu'une et raconter son histoire, c'est déjà éprouvant. Si en plus on doit le refaire à chaque fois qu'on recroise une nouvelle personne, en fait c'est d'une violence pas possible la plupart du temps, et surtout ça demande un courage, une volonté, enfin à un moment donné qu'on n'a plus, parce qu'en plus en face de nous on a des gens qui en réalité n'ont pas de solution la plupart du temps, ou de budget, ou d'aide particulière à nous proposer. Puisque la famille monoparentale n'est pas reconnue actuellement dans notre société. Et donc, on est dans un flou administratif, économique et social qui est clairement problématique actuellement.
Et vous, pour essayer de porter ces questions-là aussi, du coup, dans les milieux féministes, vous avez rejoint l'association féministe La Collective des Mères Isolées, dont l'objectif, c'est justement ça, de revendiquer et de visibiliser ces difficultés. Qu'est-ce que justement cette association porte et qu'est-ce que ça vous apporte aussi à vous ?
La Collective des Mères Isolées, c'est avant tout de se retrouver avec des femmes qui vivent les mêmes situations que nous. Et ça déjà, de se rendre compte qu'on n'est pas seul à traverser ce qu'on vit, c'est hyper important. La représentativité, y compris pour nos enfants, elle est capitale. Ensuite, au-delà de ça, forcément, il y a un réseau qui est créé depuis plusieurs années, même maintenant. Moi, je n'ai fait que là les rejoindre, qui est aussi une aide, y compris justement pour des situations difficiles dans nos quotidiens. Ça peut être une aide juridique, une aide économique, une entraide, mais l'entraide, elle va au-delà, en fait, de juste s'épancher, on va dire, les unes auprès des autres. C'est que ça peut amener aussi une façon de pouvoir recréer un tissu social qui est vraiment important, parce que l'une des grosses difficultés quand on est parent solo, c'est quand même aussi à un moment donné de se retrouver isolé. Là, la collective, elle permet de pouvoir se rendre compte qu'on n'est pas seul et de pouvoir, en fonction des villes ou des régions, même rencontrer d'autres mères qui vivent, par exemple, donc les mêmes situations, et donc de créer du lien. Et ça, c'est essentiel.
Et justement aussi, est-ce que vous êtes pas mal suivi sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous racontez ce dont vous témoignez, ce que vous dénoncez ? Justement, ça permet aussi, là, la discussion entre personnes concernées.
Effectivement, c'est une des choses qui se passent. Mais après aussi, ça permet de visibiliser, justement, auprès d'autres personnes qui ne sont pas concernées ou qui n'avaient pas conscience, en fait, de ces situations-là. Et ça, je crois que c'est ça aussi qui est essentiel. C'est-à-dire que plus on parle d'une situation à un nombre de personnes qui va s'élargir, on va dire, au fur et à mesure, qui elles-mêmes vont pouvoir, dans leur propre vie, prendre conscience de ce qui se passe, peut-être pour une personne qu'ils peuvent connaître de près ou de loin, ça va pouvoir, en fait, ben, un peu semer des graines, en réalité, on va dire. Et c'est ça qui est important aussi, parce que, à un moment donné, si effectivement, on veut que politiquement, notamment, les choses avancent, on va avoir besoin aussi de soutien de gens qui sont pas parents isolés. Donc c'est important de passer, je crois, par les réseaux sociaux notamment, mais pas que, pour visibiliser ces situations et essayer d'obtenir le plus de soutien possible pour pouvoir faire avancer nos vies, tout simplement.
Vous vous battez aussi régulièrement contre cette injonction du « quand on veut, on peut », qui en fait, en sous-titre, signifie « si vous êtes pauvre ou dans une situation compliquée, c'est que c'est de votre faute ». Or, évidemment, c'est pas une question d'individu, mais c'est bien une question de système dans lequel on vit. Et d'ailleurs, dans l'association dont vous faites partie et dont on a parlé tout à l'heure, la collective des mères isolées, c'est aussi une association qui demande un engagement fort de la part des pouvoirs publics. Et vous battez aussi régulièrement contre ça.
Oui, je pense que ça, c'est un vrai problème. D'une part, lié à la société patriarcale dans laquelle on vit et que les réseaux sociaux ont un peu monté un peu en épingle au fur et à mesure. C'est-à-dire que, d'une part, on nous a fait croire aux femmes pendant des années que c'était extrêmement facile d'être mère et de concilier tout ça avec une vie professionnelle, avec la maison, avec le reste de la vie de nos enfants et que, en fait, c'était effectivement une histoire de volonté et que si on n'y arrivait pas, de toute façon, c'était de notre faute parce qu'on s'y prenait mal. Et puis, en plus, effectivement, le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on voit aussi une espèce de multiplication des comptes d'hommes ou de femmes, d'ailleurs, qu'importe, qui sont tous coachs en bien-être, en développement personnel, spirituel ou je ne sais quoi encore. Et qui, à partir de là, vont expliquer principalement aux femmes, effectivement, puisque le problème vient d'elles, que c'est pas très compliqué. Il suffit de se réorganiser, il suffit de classifier un peu sa vie, il suffit déjà de prendre du temps pour faire les choses, pour pouvoir les faire, et puis du coup, tout est réglé. Alors que, en réalité, on sait bien que à l'heure actuelle, le monde du travail, par exemple, n'est absolument pas adapté à une conciliation de la vie, maternelle, on va dire, avec une véritable carrière. On sait aujourd'hui qu'en fait, une femme qui a un enfant est freinée dans sa reprise, par exemple, déjà d'emploi, rien qu'au retour de son congé maternité, quand c'est pas le cas pour un homme, encore plus quand on est mère isolée. Là, de pouvoir continuer à avoir une carrière professionnelle et élever ses enfants toute seule, c'est en fait mission impossible. Et c'est pour ça que tant de familles monoparentales, notamment, sombrent dans la précarité. Et en fait, là, c'est dramatique. Il faut arrêter de dire aux gens, en gros, bougez-vous les fesses et tout va bien se passer. À part culpabiliser encore plus les gens et les enfoncer en plus dans un mal-être qui peut être véritablement profond à un moment donné, un mal-être psychologique même. Il faut tout ça que ça cesse, effectivement, et surtout que, réellement, au niveau sociétal, au niveau des entreprises, au niveau politique, il y a de vraies mesures qui puissent être prises.
Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, révoltons-nous.
Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à venir discuter avec nous sur Instagram ou sur Facebook pour continuer à parler de ce sujet. Il faut savoir aussi que Sylvie Longuet réalise par ailleurs le podcast de La Gazette. Elle tient aussi une newsletter qui est accessible depuis son profil Instagram La Gazette de Sylvie. Et elle a également écrit un recueil qui s'appelle Fragmenté. N'oubliez pas non plus de vous abonner à Bretonne et Féministe sur votre plateforme de podcast préférée. Nous, on se retrouve dans 15 jours pour un épisode avec Nicole Le Garec, qui a réalisé le documentaire Plug Off des pierres contre des fusils, une lutte menée par des femmes contre l'installation d'une centrale nucléaire dans le Finistère au début des années 1980.
Découvrons
ça a un peu étonné tout le monde quand même, parce que elles ont pris la tête du combat comme ça naturellement. Elles se sont mises devant les gardes mobiles, déterminées, évidemment pas agressives de façon, enfin, elles leur disaient ce qu'elles pensaient, mais ça allait pas au-delà des paroles. Et elles arrivaient simplement avec leur regard, leur détermination, la façon dont elles se tenaient, dont elles parlaient, à faire craquer les gardes mobiles.
Bienvenue chez Bretonne Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine.
Aujourd'hui, pour ce 59e épisode, je m'entretiens avec la réalisatrice finistérienne Nicole Le Garec. En 1980, elle tourne avec son mari, Félix Le Garec, le long métrage « Plogoff, des pierres contre des fusils ». En France, à cette époque, les documentaires sont encore rares au cinéma, mais celui-ci rencontre tout de suite le succès. 40 ans plus tard, il est d'ailleurs restauré et en mai 2019, il est sélectionné à Cannes dans la catégorie des films dédiés au patrimoine. C'est le premier documentaire produit et réalisé en Bretagne à y être sélectionné. En 2020, il ressort également au cinéma, toujours dans sa version restaurée. Le documentaire de Nicole Le Garec commence donc en février 1980, quand les forces de l'ordre entrent à Plogoff, à la pointe du Cap Sizun, afin d'assurer la réalisation d'une enquête d'utilité publique préalable au lancement de travaux d'une centrale nucléaire. La volonté de construire cette centrale nucléaire et l'enquête provoquent de très fortes contestations et manifestations. Des barrages sont édifiés et il y a des violences qui ont lieu entre manifestants, manifestantes et forces de l'ordre. Et au cœur de cette lutte, il y a les femmes de Plogoff. Et c'est de cela dont on parle là avec Nicole Le Garec, parce que ce podcast, c'est aussi archiver, rendre visible le patrimoine culturel, historique et ici cinématographique breton. Avant de discuter de ce rôle décisif, je vous laisse écouter la bande-annonce de Plogoff, des pierres contre des fusils.
Alors 400 mètres à gauche au moins et 400 mètres à droite, hein, c'est toute cette côte que l'EDF convoite pour mettre sa fameuse centrale. Et ça, nous ne le voulons pas et c'est pour cela que nous luttons.
Oui, la population entière de Plogoff est certainement contre le nucléaire. N'importe comment, la Bretagne est la poubelle de la France, et puis c'est tout. Hein. On est bon pour ramasser marée noire, nucléaire.
Et le lendemain, alors, ça s'est aggravé. Les cailloux ont commencé à partir. Ça a été instinctif au moment du départ des mairies annexes. Les hommes n'ont pas pu s'empêcher de prendre les cailloux qui étaient à portée de la main. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire contre ces gens-là.
La confiance est là, et je pense quand même la persévérance, le courage aura le dessus, et je dis, on les aura. Ça, il faut les dire.
Deviennent une île et qu'on ne les voit plus sur notre terrain. Ouais.
Alors, merci Nicole d'avoir accepté cet entretien qui est enregistré via le téléphone. C'est pourquoi la qualité sonore est moins bonne que d'habitude. Pourquoi et comment vous et votre mari avez voulu tourner ce documentaire ?
C'est un sacré enjeu pour nous. Puisque on tournait en pellicule, en film 16 mm, ça coûtait cher. C'était le problème financier s'est posé. Mon mari disant, on n'a pas d'argent pour acheter des pellicules, comment on ferait un film, quoi. De façon très pragmatique, en fait, il n'avait pas tort. Et moi, j'étais tellement déterminée, je pensais qu'il fallait le faire vraiment ce film. J'ai insisté en disant, Voilà, c'est vrai que moi aussi, j'ai dit qu'on commencerait plus de films sans avoir d'argent, sans avoir l'argent nécessaire. Mais là, il faut y aller, quoi. Donc, on a hypothéqué notre maison pour pouvoir faire ce film.
Oui, parce qu'en plus, au début, vous vous y alliez à Plogoff en tant que manifestant et manifestante, pas pour tourner un documentaire au tout début.
C'est-à-dire qu'il y a eu, oui, des manifestations, par exemple celle mise en place par la mairie, en tout cas pour aller sur le lieu où devait être construite la centrale. On partait de la mairie, ça je me rappelle, on est allé sans caméra là, effectivement. Hein. Mais justement, peut-être dans le cadre de cette manif, j'ai vu les gens déterminés, j'ai vu aussi que les médias ne suivaient pas vraiment un quotidien qui nous a suivis après, mais ce jour-là, ils mettaient une bataille de gagner pour un combat perdu. Voilà, on avait gagné cette bataille-là, il y avait eu du monde, mais le combat était perdu d'avance, pensait tout le monde, parce que toutes les instances gouvernementales, régionales, départementales étaient pour la centrale, en fait. Et il y avait une poignée de gens au départ, enfin, qui se levaient pour protester et pour. C'était pas gagné d'avance, c'est vrai.
Quand vous avez commencé donc à tourner le documentaire, il y avait énormément de femmes à la tête de cette lutte. Est-ce que vous, ça vous a étonné?
Ça a un peu étonné tout le monde quand même, parce que elles ont pris la tête du combat comme ça naturellement. Elles se sont mises devant les gardes mobiles, déterminées, évidemment pas agressives de façon. Enfin, elles leur disaient ce qu'elles pensaient, mais ça n'allait pas au-delà des paroles. Et elles arrivaient simplement avec leur regard, leur détermination, la façon dont elles se tenaient, dont elles parlaient, à faire craquer des gardes mobiles. C'est-à-dire que plusieurs ont dû rentrer dans le camion. Il y a eu des changements de personnes dans les gardes mobiles parce qu'ils ne tenaient pas le coup. Face aux femmes, aux personnes âgées, j'ai eu l'occasion d'enregistrer après un garde mobile qui avait fait tout le combat de Kogoff. Et il m'a dit, j'ai fait mes 68, mais ce qui a été le plus dur, c'est Plogoff, parce que on nous avait appris, quand on, voilà, on répétait, quand on s'exerçait, à se battre contre des étudiants, contre des jeunes. C'était souvent les jeunes qui se révoltaient. Mais jamais j'aurais pensé que je me retrouvais un jour devant des grands-mères, voilà, qui se levaient par rapport à une injustice qu'ils considéraient comme telle, en tout cas. Et ça nous déstabilisait, quoi. Ils se sentaient pas à leur place, là.
Oui, ils osaient pas faire grand-chose, quoi.
Ah ben non, parce que on peut, un jeune, on peut le violenter quelquefois. Enfin, on peut, je veux dire, ils se privent pas trop. C'était différent pour eux, du moins à l'époque, de se retrouver face à des femmes et à des personnes âgées. En plus, elle leur disait, j'aurais pu être votre grand-mère, mais j'aurais eu honte d'avoir un petit-fils comme toi. Elle leur disait des choses comme ça, qui étaient assez dures aussi. Mais elle faisait face, et aussi, je dirais, c'était pas dans la espèce de déterminisme, il n'y avait pas un abîme entre eux, un fossé comme ça, c'est-à-dire qu'ils étaient là toute la journée, aux heures creuses, je dirais, quand c'était pas les affrontements, les deux groupes se parlaient, voilà, ils se parlaient normalement, et puis après, chacun reprenait sa position, et là, c'était voilà, chacun défendait son camp. Il y avait cette humanité qui restait en dépit de tout, quoi.
Ces femmes-là, elles ont été décisives dans cette résistance, et que cette lutte contre la centrale nucléaire de Plogoff, elle n'aurait peut-être pas eu l'issue qu'on connaît s'il n'y avait pas eu ces femmes-là.
Alors, on peut dire que certainement, elles ont joué un rôle, je suis certaine qu'elles ont joué un poids, qu'elles ont eu un poids très important, sans doute décisif. Le poids des femmes, ça jouait parce qu'elles étaient calmes, du moins au début, enfin, il est arrivé qu'elles disent des choses, voilà, comme je disais, qu'elles... Elle s'emporte, surtout quand il y avait des arrestations. Mais ça crée un choc de voir les femmes devant, comme ça. C'était un sacré barrage, en fait, parce que le gouvernement de l'époque disait que c'était la bande à Bader. On allait y aller jusque-là, à dire que des Allemands arrivaient ici pour... Ils jouaient sur le fait que c'était des écologistes. Le terme écologiste n'était pas si positif à l'époque, hélas. Et donc, des écologistes radicaux, des termes comme ça, cheveux longs, parce qu'à l'époque, les jeunes portaient les cheveux longs depuis 68. Et nous, on montrait dans le film que la population de Plovov, elle était là présente et que c'était d'anciens militaires qui n'avaient jamais manifesté leur vie, qui avaient toujours obéi à la hiérarchie et que les femmes avaient la responsabilité de la maison pendant qu'ils n'étaient pas là, mais elles n'avaient pas manifesté non plus. Mais que là, leur détermination faisait qu'elles étaient passées du côté de la rébellion, quoi, hein, quelque part, contre l'autorité gouvernementale, et enfin.
Le fait qu'il y ait eu beaucoup de femmes retraitées et beaucoup de femmes au foyer, c'est aussi parce qu'il y avait une absence des hommes du village pour des délais plus ou moins longs. Parce qu'à l'époque, à Plogoff, là j'ai les chiffres, sur un total d'environ 600 foyers, il y en a 430 où il y a une personne au sein de ces foyers qui ont une activité qui est reliée à la mer. Soit des marins qui travaillent pour la pêche, soit la marine marchande ou la marine nationale. Voilà, c'est une configuration qui entraîne une présence qui n'est pas continue des hommes, des hommes qui travaillent, qui sont actifs. Ça aussi, c'est à prendre dans ce contexte-là et à relier au fait que voilà, les femmes étaient présentes aussi parce que les hommes n'étaient pas là.
Alors, effectivement, c'est ce qu'elles ont dit, les femmes. D'ailleurs, à un moment dans le film, elles disent « Mais nous, on est habitués à prendre des responsabilités. Les hommes ne sont pas là et donc nous avons la charge du foyer. Voilà, on prend les responsabilités et donc c'est normal que pour un événement aussi important que l'on décide soi-même, qu'on décide d'être contre la centrale. Il y a des hommes qui, alors ils devaient être absents très longtemps, eux, et ils avaient tous les articles de journaux. Et ils connaissaient la lutte de Plovov, mais ils n'étaient jamais venus parce que leur embarquement travaillait sur des paquebots, je crois, aux États-Unis ou un truc comme ça. Et je l'ai rencontré après, et il était très très au fait de la lutte de Plovov, mais c'est sa femme qui avait mené le combat physiquement, je dirais. Lui suivait ça de loin. Ça, c'était Plogoff, quoi. Mais tout était, vous avez raison de souligner le lien à la mer, parce que à Plogoff, et peut-être même en Bretagne, s'attaquer à la mer, parce que la centrale nucléaire, c'était ça aussi, quand même. Mmh. Et il y avait eu la marée noire avant. Pour nous, la mer, c'est sacré. Et donc, il y a comme ça une réaction pour la défendre, quoi. C'est presque viscéral, ce genre de réaction. Dans un combat comme ça, il faut beaucoup d'éléments. Il n'y a pas seulement se battre contre le nucléaire, c'était la raison originelle. Mais ensuite, par exemple, les manifestants qui venaient de loin étaient saisis par le spectacle, par la beauté du paysage, par exemple. Et les plogoffistes eux-mêmes, qui étaient, je dirais, pas blasés dans le corps, mais qui sont nés avec ce paysage, tout d'un coup, le fait qu'ils soient menacés, ils trouvaient leur pays beau. La beauté leur sautait aux yeux et dit « on va quand même pas laisser faire ça, quoi. On va pas laisser se détruire ce sanctuaire, quoi. » Vous avez raison sur ce plan-là aussi. Il faut beaucoup, beaucoup d'éléments, parce qu'un jour, on est touché par une chose. Bon, le nucléaire était déclencheur. Mais ensuite, il faut qu'autre chose réactive. Ce besoin de se battre, ce besoin de se retrouver. Le collectif a joué beaucoup. Le fait de se retrouver la nuit, se retrouver le jour. Il y a quelqu'un, Jeannot Cariou, dans le film, qui dit « On ne se connaissait pas si bien, finalement. Plogoff était tendu, il y a des gens de quartier qu'on ne connaissait pas bien. » Et là, tout le monde se retrouvait, on était au coude à coude. Il y avait vraiment un lien fort, quoi. Et ça, nous, on a beaucoup apprécié d'être intégrés très vite, quelques jours, peut-être une semaine, on est rentré peut-être pendant une semaine à la maison, et quelqu'un, Marie Carval, de la ferme de Kerstral, nous a dit « Vous n'allez pas rentrer chez vous, c'est trop loin. Vous allez dormir chez moi, vous allez manger chez moi. » Et c'est ce qu'on a fait à Troyes, hein, on a vécu chez elle. Et du coup, on était beaucoup plus proches aussi des gens de Plogoff. Voilà, on faisait partie de ces combattants, quoi.
La lutte contre la centrale nucléaire de Plogoff, elle a été menée essentiellement par des femmes. Et d'ailleurs, à la tête du comité de défense, c'est une femme, Annie Carval, qui va devenir en fait la figure et et la voix de cette lutte-là. Mais a posteriori, il ne faudrait pas qu'on construise une lecture féministe de cette contestation. C'est-à-dire que, voilà, on est dans une lutte menée par des femmes, mais ce n'est pas une lutte féministe.
Non, ce n'est pas une lutte féministe. Les femmes, vous savez, quelquefois, le féminisme, on le découvre dans l'action. C'est-à-dire que les femmes au foyer, en général, ce ne sont pas celles qui prennent le féminisme en main. C'est pas parce que ce féminisme est chez elles endormi, je dirais inconscient, c'est pas pour autant qu'il n'existe pas et que dans des circonstances de la vie, tout d'un coup, elles agissent en disant « mais on ne peut pas laisser faire ça, voilà, on va agir » et elles sont dans l'action pour alors et au premier plan. C'est ça aussi, les prises de conscience ne se font pas toujours de façon intellectuelle, je dirais. Ça peut être généré par une action, par un événement, par voilà. Je trouve ça très beau aussi.
Est-ce que il y a eu des prises de conscience féministes à partir de ce moment-là?
Oui, il y a eu en tout cas des femmes qui ont pris conscience de leur force. C'est vrai, vous citiez Annie Carval, donc à la tête du comité de défense. Et Amélie Kerler, qui était aussi figure de proue quelque part, parce que elle était adjointe à Jean-Marie Kerler, le maire. Elle est devenue maire ensuite. Hein. Et dans une scène du film, après le Vendredi Noir, les gens étaient là désemparés quand même, parce qu'il y avait eu 11 arrestations, une brutalité beaucoup plus forte que d'habitude. On était pris en tenaille. Jusqu'où iront-ils, quoi? Du coup, l'unité pouvait se fissurer très vite parce que ceux qui disaient on va à Pont-Croix, d'autres qui disaient faut pas, Annie Carval, ben, disait, ben non, il faut pas aller, mais Jean-Marie Cador prenait la parole, la foule était là devant la mairie, mais le message ne passait pas, la cohésion ne se faisait pas. Et Amélie Carval prend la parole, et là elle leur dit, faites de Plogoff une île.
Que Plogoff devienne une île et qu'on ne les voit plus sur notre terrain. Ouais.
Et elle parle avec lyrisme, avec concision, et tout d'un coup, elle se fait applaudir, et les gens, ils repartent. Ils repartent au combat, ils repartent faire des barricades la nuit, cette nuit-là, et c'était gagné. Donc, oui, le rôle des femmes, il était quand même important, quoi. C'est clair qu'à un moment comme ça, flou, et qui était crucial, c'est une femme qui a trouvé les mots qu'il fallait dire.
Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous.
Merci beaucoup pour votre écoute. Si le sujet vous intéresse, il y a aussi le livre Femmes de Plogoff, écrit par René Conan et Annie Laurent, qui est également très intéressant avec beaucoup de témoignages de manifestantes. Vous pouvez aussi venir en discuter sur les réseaux sociaux, sur les comptes Facebook et Instagram de Bretonnes et Féministes. N'hésitez pas non plus à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. À dans 15 jours pour un nouvel épisode.
J'ai passé trop de temps à me noyer dans des larmes que je pensais pouvoir gérer, mais j'ai plus les armes. Mon cœur est débutant, tu me mens et je m'éloigne, souvenir entaché. Notre histoire était un drame, mais là c'est trop chaud. Mon cœur en FOMO, des larmes en slow-mo, souvenir en lambeaux. Je sais pas ce qu'il me faut, j'écoute mes démos, très triste bon morceau. Je parle qu'à mon piano. Je montais la sono, m'oublier dans la nuit, repenser à tes défauts, à ma folie. Je montais la sono, oublier ce qui nous lie, repenser. penser tous tes défauts à la folie. À quoi bon recommencer? J'ai trop perdu, j'ai trop donné. À quoi bon tout ressasser? J'ai tout perdu, je t'ai tout donné. Le temps s'est écoulé, je redeviens un enfant à force de laisser couler. Mes larmes ont tout abîmé. Réapprendre à aimer, réapprendre à vriller. Tes yeux sont révoltants à continuer de briller. Et là c'est trop chaud, mon cœur en FOMO. Des larmes en slow-mo, souvenirs en lambeaux. J'sais plus ce qu'il me faut, j'écoute mes démos. Très triste bon morceau, j'parle qu'à mon piano. Je vais monter la sono, m'oublier dans la nuit. Repenser à tes défauts, à ma folie. Je vais monter la sono, oublier ce qui nous lie. Repenser tous tes défauts, à la folie. À quoi bon recommencer? J'ai trop perdu, j'ai trop donné. À quoi bon tout ressasser? J'ai tout perdu, je t'ai tout donné. Je vais monter la sono, m'oublier dans la nuit. Repenser à tes défauts, à ma folie. Je vais monter la sono, oublier ce qui nous lie. Repenser tous tes défauts, à la folie. À quoi bon recommencer? J'ai trop perdu, j'ai trop donné. À quoi bon tout ressasser? J'ai tout perdu, je t'ai tout donné.
There's more to life than New York City. As I climb 10,000 steps up to the temple, I begin to believe that this journey would be easier if I wasn't so literal. While I'm gone, look after yourself. I don't want to hear reports that you were lonely. And if you see the moon over some avenue, think of me, think of me. You once told me about the moon and the first man to walk on her. They saw the view of the oceans without water. They were searching for a Chinese queen. Couple of salesmen trying to ship an American dream.
She looked at them like, what do you mean?
When we achieve weightlessness, we'll fly into the air like Chala. Look down on a beam to the places that we've been. You once told me about the moon. Trying to shed themselves from this dream.
She looked at them like, where have you been?
Where have you been? Where have you been? All of my life. Ooh.
Patiently, my heart cries out from pain inside. Where can you be? I wait patiently. When you're alone, the going gets rough. Come back, come back, come back. I've had enough. Make me a queen. Happy again. Hear my cry. Please, my king.
Oh, expulsés de nos centres-villes, expropriés de nos droits, colonisation trop subtile pour que vraiment le peuple voie. Divisés dans la peur, trop renfermés sur nos mères, celles qu'ils sèment et dont les fruits nous arrivent en pleine gueule. C'est le même bourreau qui vient taper sur nos crânes et entre nous, on se déverse tout le poison de nos drames. Ça tord dans la rue, supporte tous les malheurs pendant que des bâtiments sont vides, tant pour prendre la valeur. Ça expulse des familles, des vieux, des enfants, entre cartes de CRS et caméras de surveillance. Quelques années ont suffi pour aseptiser nos ruelles, apartheid social et culturel. Aujourd'hui, les fachos s'affirment, aiment nous humilier. La ville n'est plus au peuple, mais au marché. Champs d'immobilier, fonds spéculatifs, les appétits deviennent tarés. Depuis que la guerre aux pauvres est déclarée, expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides, on ira affronter l'abus qui sévit et va trop loin, on se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient, ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis, sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit, solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Virer de nos quartiers populaires, c'est des bandes qui poussent à la place, nous ghettoïsent, nous font la guerre pour nous envoyer à la casse. Les cow-boys sont armés, prennent goût à ta base, veulent faire déborder le vase pour mieux nous voir boire la tasse. C'est le nouvel ordre qui tape jusqu'à nos quartiers, police featuring Air France, si jamais t'as pas de papier. Babylone construit son empire sur nos misères, depuis que les droits de l'homme sont morts lors d'une bavure policière. Génération bouc émissaire, mégots de jeunes sous le préau écrasé, mais qui n'a pas dit son dernier mot. 2008, injustice, y'a que des murs et des tensions, des familles, même des enfants enfermés en rétention. Survivre dans ce merdier est devenu un mode de vie, des SDF qui crèvent dans le froid devant des immeubles vides. La guerre aux pauvres est officielle, dites-leur ça va trop loin, pas d'apartheid, dans la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides, on ira affronter l'abus qui sévit et va trop loin, on se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient, ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis, sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit, solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix. Qu'ils ont le chiffre, qu'on a le nombre, et que la rue nous appartient.
Mesure européenne, réhabilitation, synonyme d'expulsion et d'aseptisation. Syndicats, collabos qui jouent le jeu de la drague, pendant que le chaos social est étouffé à coups de matraque. Une populace qui voit la face, mais jusqu'à quand? Et ces putains de médias vendus qui ne connaissent que la propagande. Des flics violents qui aiment provoquer les jeunes. Gouvernement fasciste qui nous en met plein la gueule. Des fonds de pension privés qui rachètent des quartiers entiers. Qui virent ses habitants sans prendre la peine de reloger. Sans papier, humiliés par les gardiens du chaos. Compagnie aérienne, complice de la nouvelle Gestapo. Trop de collabos pour les charters de la honte. Fichage ADN, goût et blessures et déportations. J'appelle à la résistance, mobilisée sur le terrain. Désobéissant, car la rue nous appartient. Expulsés de nos vies, comme expulsés de nos vies, on ira occuper la rue, comme tous les immeubles vides. On ira affronter l'abus qui sévit et va trop loin, on se laissera pas voler la rue, car la rue nous appartient. Ils veulent dessiner l'apartheid, on dessinera le maquis, on ira se réapproprier tout ce qu'ils ont pris pour acquis, sans logis, sans papier, sans rêve et sans droit. Solidarité, on est ensemble, c'est le front des sans-voix.
Voilà l'esprit du maquis, mon frère. Résistance sur le terrain contre leur politique d'apartheid. Car la rue nous appartient et parce que nos vies nous appartiennent.
That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. With my little titties and my fat belly, I could tell your man if you finna let me. It's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world. They be fucking with me. I'm a Calvin Klein model, come and get me. Set the resi up, don't be fucking with me. My little titties are so itty bitty, I go locomotive, chitty chitty, bang bang. Gold hoops and a name chain. 10 boots are like 4 rings. Missy Elliott can't stand the rain. You lame, playing the same games. Little titties not so damn pretty. Staircase in a crack filly. Little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Bop bop bow, Blue's Clues. With my little titties and my fat belly. 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 My little titties, my fat belly.
That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy.
Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, baby fat. I be where the ladies at. Who know how to shake it fast? We gon' spit that brazy trap. You know that I take it back. I'm spitting the illest man. Yeah, ho. Who that? Who that? Who that? Princess Nokia, make clap. She with it to set it back and give you the fire track. Y'all watch what gon' happen next. Who that up in the north? Dennis Rodman the court. When I step up in the function, it's a party of course. I'm having fun with my friends and I don't want it to end. And if you finna blow my heart, then I'ma punch you again. With my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly.
That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy.
He think it's a spell. This love is too magic and he cannot tell. He fuck with my bro, how my pussy is spelled. My thought is special, got locked like a jail. It's Polo, it's Tommy, it's Mecca, it's Naughty. I'm finna sit back and just sip on Bacardi. You come to my party, you go meet my army. A room full of girls and we acting real rowdy.
This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd while laughing up a storm until we were just bone. Until it got so warm that none of us could sleep and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to aid in the decay, but none of them were home. Inside the catacomb, a million ancient bees began to sting our knees while we were on our knees, praying that disease would leave the ones we love and never come again. On the radio, we heard November rain. That solo's real long, but it's a pretty song. We listened to it twice, 'cause the DJ was asleep. Bum, ba, bum, ba, bum. This is how it works. You're young until you're not. You love until you don't. You try until you can't. You laugh until you cry. You cry until you laugh. You peer inside yourself. You take the things you like, then try to love the things you took. And then you take that love you made and stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood and walking arm in arm. You hope it don't get radio. You'll hear November rain. That solo's awful long, but it's a good refrain. You'll listen to it twice, 'cause the DJ is asleep.
Oh, Thank you.